Si je vous dis 1227 et 1551, qu'est-ce que ça vous dit? Il y en a qui sont en train de noter les numéros pour jouer au loto. Ça serait le coup si jamais ces numéros sortaient la semaine prochaine. Non, 1227, c'est l'année où on a divisé la Bible en chapitres. 1227. C'est un Anglais, Stephen Langton, évêque de Canterbury, qui a décidé de diviser le texte biblique en chapitres. Il y avait déjà des livres, des auteurs différents, humains. Et aujourd'hui, c'est l'exemple d'un travail qui aurait pu être mieux fait. On arrive au chapitre 11. Et en fait, on va revenir un peu sur les derniers versets du chapitre 10, parce qu'il y a une unité de pensée. Alors, pour son excuse, la tradition veut qu'il ait fait cette division en chapitres sur le dos d'une mule, en allant en voyage à Paris. Alors, ce n'était pas pour une inauguration, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la tradition qui dit ça. Ce n'est pas très pratique de faire du travail avec un crayon ou une plume sur le dos d'une mule, mais c'est ce qu'ils l'ont dit. Et puis, 1551, c'est l'année où un Français, Robert Étienne, qui était d'une famille de grands imprimeurs français parisiens, a divisé les chapitres en versets. Et l'idée, c'était de pouvoir repérer, désigner les versets dans toute la Bible, pouvoir avoir une façon d'en parler sans avoir à dire vous commencez à la Genèse et quand vous aurez lu pendant 47 heures et 30 minutes, vous devriez être dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11. On y est aujourd'hui. On va relire la fin du chapitre 10. Vous vous souvenez que cette lettre aux Hébreux, dont on n'est pas certain de l'auteur humain, on sait que l'auteur réel, c'est le Saint-Esprit qui a écrit toute la parole de Dieu par l'intermédiaire d'agents humains. Et cet auteur, certains pensent que c'est Paul, d'autres ont plusieurs hypothèses, peu importe. Il écrivait à l'époque à des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, mais qui, sous la pression des persécutions, se disaient que c'était peut-être bien de revenir à la tradition de leur père, à leur religion juive orthodoxe, avec les sacrifices qui se pratiquaient encore au temple. On pense que la lettre a été écrite avant l'an 70, donc avant la destruction de Jérusalem et du temple par les armées romaines. Et il se disait, c'est bien beau tout ça, mais finalement, on était plus tranquille quand on pratiquait notre ancienne religion. Et l'auteur essaye de tout son être de leur montrer quelle erreur il ferait s'il revenait à ce qui précédait la foi en Christ. Et on a vu, depuis qu'on a commencé l'étude, il nous montre combien Christ est supérieur à toute autre chose religieuse. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, il est plus grand que les anges, il est plus grand que les prophètes, il est plus grand que les grands prêtres, pour qu'ils aient beaucoup de respect, il est plus grand que Moïse. Et la foi en lui, c'est la chose la plus importante. Il est un grand prêtre d'une autre nature que le grand prêtre qui officiait dans le temple. Lui, il vient de Dieu, il officie dans le ciel, il est souverain, il montre vraiment que c'est un sacrifice parfait comparé au sacrifice qui était offert avec des animaux ou des biens comme des cultures, des récoltes plutôt, et qu'il fallait vraiment s'adonner à lui faire entièrement confiance. On a vu, Tony nous a parlé de l'encouragement qu'il donne à persévérer justement dans la foi. Et il citait ce verset qui se trouvait dans l'Ancien Testament, dans le prophète Habacuc, « Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Alors, on peut lire à partir du verset 35 du chapitre 10, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, vraiment il n'y a plus beaucoup, et si lui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous les chrétiens qui continuons dans la foi en Christ, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Ça rejoint la grande déclaration que fait Paul dans Éphésiens 2, 9, de 8 plutôt, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est par la foi, par la grâce de Dieu qui nous permet d'avoir accès à lui par la foi. La foi. Et on arrive donc dans ce chapitre qui aurait pu commencer 2 ou 3 versets avant le départ, par le grand chapitre de la foi. Il y a quelques grands, très grands chapitres dans la Bible. Si on vous disait, vous ne pouvez avoir que quelques chapitres de la Bible, quels seraient les chapitres que vous choisiriez ? Je crois que celui-là, Hébreux 11, ça devrait être un chapitre que vous retiendriez. On peut penser à Romains 8, on peut penser au psaume 23, Jean 3, 16. Il y a quelques chapitres sans lesquels l'édifice s'effondrerait quelque part. Et celui-ci, c'est le grand chapitre de la foi. Alors, il commence par donner une description. Ce n'est pas une définition théologique complète, mais c'est un des passages dans la Bible où nous avons une description de ce qu'est la foi. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait que il y a dans certains milieux chrétiens ce qu'on appelle la doctrine de la foi, la doctrine de la prospérité, où la foi c'est une puissance qui est à notre disposition, pour essayer de créer des choses qui ne sont pas. Si j'ai la foi que je vais être riche, alors Dieu va m'accorder cette richesse. Et cette foi, souvent, ce n'est pas des fois dans des choses qui sont promises par Dieu, mais c'est en des choses qui plaisent à notre vieille nature de pécheur. Et donc, il faut faire attention et ne pas utiliser la foi comme une confession positive. Certains disent, alors qu'ils sont en train d'éternuer et de se moucher sans arrêt, de tousser, non, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Et par la foi, ils guérissent. Alors c'est vrai que Dieu nous guérit, il est bon, mais c'est un danger que de croire qu'on peut manipuler Dieu en lui disant « Au nom de toi, je veux ceci et j'y crois ». C'est une doctrine qui a beaucoup de succès. Ça a commencé avec un certain docteur, ça c'est pas récemment, je veux dire, c'est revenu à la mode, parce que c'est toujours quelque chose qui a tenté les hommes de dire qu'on peut manipuler Dieu pour obtenir ce qu'on veut, au lieu de laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut. Et Norman Vincent Peale a écrit des ouvrages popularisés dans le Reader's Digest et dans ces choses comme ça, qui justement disaient qu'il fallait être positif. Et que si... Alors c'est vrai qu'il y a une réalité, le fait si on est toujours déprimé, qu'on croit que le pire va nous arriver, ça ne contribue pas à mettre en place des positions, mais théologiquement, il faut faire très attention. Et souvent, c'est dans ces milieux, on parle essentiellement de la guérison, de la prospérité, qui sont des choses que Dieu nous accorde, mais qu'il accorde sans qu'on puisse le manipuler. Il les accorde parce qu'il nous traite avec grâce. La grâce, c'est la bienveillance qu'on ne mérite pas. Et fort des exemples de bienveillance qu'on ne mérite pas, ils disent, voyez, si on dit ceci, ça peut arriver en existence. Je referme la parenthèse, mais sachez que vous pouvez, il y en a dans la région, des églises, qu'on appelle des églises du mouvement de la foi, ou de la doctrine de la prospérité. Que nous dit le texte? On va lire les trois premiers versets. Et je dois dire que c'est vrai, ça fait partie de ces passages, on est un peu intimidé de les aborder. On a l'impression qu'on marche sur le tapis rouge qui mène à l'Élysée. Toute proportion gardée, bien entendu. C'est beaucoup plus important. On ne veut pas faire de faux pas, on ne veut pas faire de fautes de protocole, on ne veut pas dire des choses qui ne sont pas vraiment dites dans le texte. Donc merci de prier pour ce que je peux vous dire ce matin. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Vous avez noté le deuxième verset, il est dit « C'est à cause d'elle que les anciens, c'est-à-dire les chrétiens qui nous ont précédés, les grands hommes de Dieu qui nous ont précédés, je n'aime pas trop le terme de grands hommes de Dieu, c'est des petits hommes qui ont eu foi en un grand Dieu. » Plutôt, les anciens ont reçu un témoignage favorable et ça va être l'indication de ce qui va suivre dans le reste du chapitre. Il va passer en revue des personnages bien connus de la parole pour voir de quelle façon ils ont manifesté, de quelle façon ils ont démontré l'exercice de cette foi qu'il est en train de nous décrire un peu dans les trois premiers versets. On peut sauter et lire aussi le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi. Et cet exemple des grands hommes ou des petits hommes qui ont eu foi dans un grand Dieu et ont eu une grande foi dans un grand Dieu. Certains disent que ça constitue, ce chapitre 11, un peu un musée, le musée Grévin de la foi. connaissez le musée Grévin? Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Il y a un musée à Paris où les hommes célèbres ont une représentation d'une statue d'eux-mêmes faite en cire et qui les représente. Et c'est assez saisissant quand on se promène dans ce musée. On voit Michael Jackson. Maintenant, il va y avoir la statue du nouveau président. Il y a la statue de Donald Trump, doit y être, avec peut-être celle de Barack Obama. Donc c'est à la fois des personnages historiques et des personnages d'aujourd'hui. Mais là, c'est remarquable, ces personnages qui ont une grande foi. On va voir au chapitre 12 qu'ils sont, d'une façon toute particulière, qu'ils sont vraiment vivants. Et qu'il nous entoure, il voit même nos efforts pour courir la course de la foi. Et juste encore une petite chose sur ce musée Grévin de la foi. Il n'y a pas de condition autre que d'exercer une grande foi. Vous-même, vous pouvez être candidat à ce musée de la foi. Cette liste de chrétiens qui ont démontré une grande foi dans un grand Dieu, elle n'est pas limitée à ces personnages. Vous-même, vous pouvez inscrire votre nom dans cette liste. Alors, elle ne sera pas publiée dans la Bible, mais Dieu la connaîtra. Qu'est-ce que la foi ? C'est toujours intéressant de voir ce que disent les uns et les autres. Certains disent c'est faire semblant de croire à quelque chose que l'on sait absolument impossible. C'est par exemple penser que je pourrais être le nouveau recordman du monde du 100 mètres. À Dieu, tout est possible. Mais d'abord, je n'ai pas d'ambition dans ce domaine. Je ne vais pas m'entraîner pour essayer de le faire. Et en plus, avec mon âge et mes capacités physiques données à la naissance, je n'ai pas cette espérance, je n'ai pas foi dans ce que je sais impossible. Ce n'est pas aussi de l'optimisme béat, et c'est en ça que des fois la doctrine de la foi peut dire que tout est possible, on peut devenir l'homme le plus riche du monde, si on le demande à Dieu. Ça a des fois un peu cet aspect méthode Coué. Vous connaissez peut-être la méthode Coué, c'est de dire « je suis le plus beau, je suis le plus beau, je suis le plus beau » ou « je vais réussir mon examen, je vais réussir mon examen, je vais réussir mon examen » ou genre style Yves Montand qui dit « toutes ces petites misères seront passagères ». Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Il peut y avoir des accidents, des catastrophes aériennes, et on continue. C'est une attitude qui n'est pas, qui a ses avantages, mais ce n'est pas ça la foi. La foi, on a des fois l'idée que c'est un vague espoir, que peut-être si tout va bien, j'aurai ce travail, et c'est quelque chose, on pense qu'on peut, un peu manufacturer fortifier ce sentiment d'espoir avec des bonnes résolutions. J'aime bien une autre définition un peu non théologique, ou qui peut être théologique. La foi, c'est de savoir qu'il y a un océan parce qu'on a vu un petit torrent de montagne. On a vu quelque chose et on se dit que ça doit conduire à quelque chose de plus grand, quelque chose d'immensément plus grand. Des définitions plus théologiques, la foi, ce n'est pas tant de croire en dépit de l'évidence qu'obéir en dépit des circonstances et des conséquences. Malgré des circonstances défavorable, malgré des conséquences défavorables, je continue à croire en Dieu et je continue à lui faire confiance. Une autre belle définition, c'est « la foi rend l'âme du croyant capable de traiter le futur comme s'il était le présent et l'invisible comme s'il était le visible. » Quelque chose de futur, le ciel, le paradis, la présence de Jésus, c'est quelque chose de futur, mais je peux y penser comme si c'était quelque chose que je voyais sur le moment présent, quelque chose qui est pour l'instant invisible, je peux m'imaginer, je peux le rendre visible. Ça, il faut la foi pour le faire. Donc il y a des tas d'approximations sur ce qu'est la foi. Notre texte nous dit « c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Petite remarque, c'est qu'il faut, pour avoir la foi, il faut avoir des choses à espérer. Si vous n'avez pas un manque de satisfaction avec votre condition présente ou la condition du monde qui vous entoure, vous n'allez pas avoir de foi pour quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux, quelque chose de divin, quelle présence de Dieu. Si vous pensez que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et que vous n'espérez rien d'autre, vous n'avez pas cette soif pour une correction de l'injustice, une soif pour la correction de la misère, de la souffrance. Vous n'avez pas cherché la foi, vous n'avez pas montré de la foi. C'est la ferme assurance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on voit... Il y a différentes traductions. Les versions, on va y revenir parce qu'on va d'abord voir. C'est toujours bien d'essayer de revenir au texte original. Et le mot qui est traduit dans notre version par assurance, on verra qu'il est traduit par d'autres choses dans d'autres versions. C'est le mot qui nous hypostasis, qui veut dire se tenir, être la substance de. Si vous faites une expérience de chimie, vous avez des produits, un liquide, et puis vous faites bouillir, vous distillez, et à la fin, il reste quelque chose dans la fiole. Le mot qu'on utilisait, c'était le même mot pour dire cette assurance. C'est quelque chose qui est solide, qu'on peut toucher, quelque chose qui reste, qui demeure. C'est pas quelque chose de, c'est pas de la vapeur. Par opposition à la vapeur qui s'en va, c'est de la substance. Et le mot substantiel, c'est un mot qui a de la substance. On parle d'un petit déjeuner substantiel pour dire que c'est quelque chose de costaud. C'est quelque chose de ferme. C'est donc ce qui se tient dessous, ce qui soutient, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est la substance. C'était aussi le même terme qui était utilisé légalement pour désigner un titre de propriété. Aujourd'hui, on pense à un contrat, ou plutôt à une lettre, ou un titre chez le notaire. On pense à la carte grise. C'est un titre de propriété, c'est une attestation sur laquelle on peut fonder la réalité de l'appartenance. Et donc ce terme, il est traduit, suivant les versions, par assurance, ferme confiance, certitude, réalisation, substantialisation, fondement, etc., etc. Et je crois que c'est un peu parce qu'il y a toutes ces différentes versions qui se promènent qu'on a toujours un peu de mal à se rappeler ce verset, d'autant que le mot, la deuxième partie de la phrase, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une démonstration, c'est une preuve par laquelle on éprouve, on teste quelque chose. D'autres versions parlent de preuve, de certitude, de conviction, d'absolue conviction. Donc la foi, c'est une espérance fondée. Fondée sur quoi ? Sur la parole de Dieu. Romains 10, 17, Paul, un grand verset à noter, à connaître par cœur, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Aujourd'hui, nos contemporains pensent qu'ils peuvent... La foi, c'est libre. On peut décider d'avoir foi en n'importe quoi. On parle En Arizona, il y a des gens qui ont créé une secte parce que... l'objet principal de leur culte, c'est l'image d'une tortilla. Parce que quelqu'un a fait cuire une crêpe mexicaine et ils étaient persuadés que la figure qui se tenait sur cette tortilla, en fait, c'était le visage de Christ. Donc on adore la grande tortilla et puis on a foi en ça comme on a foi en Dieu ou foi en n'importe quoi. La parole de Dieu, alors certains disent c'est un raisonnement circulaire parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve des raisons d'avoir foi dans la parole de Dieu. Mais quand on connaît l'histoire de la Bible, comment elle a été constituée, qu'elle a été écrite sur 3 continents pendant plus de 1500 ans par une cinquantaine d'auteurs différents dans 3 langues, et qu'en fait il y a une harmonie fantastique et que tout parle de Jésus-Christ, tout est ordonné, tout est structuré, on réalise qu'en fait la Bible est vraiment un livre unique. Si nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais honteux, nous ne serons jamais confus. C'est toujours gênant de dire aux gens qu'on vit pour quelque chose et de voir que cette chose n'est pas digne de confiance. Des gens, dans la première moitié du 20e siècle, ou fin du 19e, ont décidé qu'ils allaient vivre pour amener la dictature du prolétariat, par exemple. Quelques 150 ans plus tard, cette dictature, elle est même le concept est un peu abandonné par les tenants d'une société qui serait plus communiste au sens de partager les ressources de façon vraiment complète. Certains ont fondé leur foi sur le petit père du peuple, Staline. Et puis, sous Khrouchtchev, un des dirigeants soviétiques de la première partie du XXe siècle, on a décidé de faire la déstalinisation. parce qu'on s'est aperçu, on a reconnu en fait qu'il était quelqu'un de peu recommandable, qu'il avait été un dictateur sanglant, que sous son régime, des millions de personnes avaient été supprimées. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui viennent vous dire « je suis fier d'être stalinien ». Il n'y en a plus beaucoup qui vivent encore, je crois, mais ils seraient déçus, ils seraient honteux. Romains 9, 33, Paul nous dit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Plus loin, Romains 10, 11, parlant de Jésus clairement, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Et là, le mot « confus », c'est honteux, déçu, vexé. Je préfère qu'on ne parle pas de cela. C'était une reprise de Ésaïe 28, 16, où le prophète disait, citant le Seigneur l'Éternel, « Me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » C'est une autre façon de dire d'être honteux, confus, d'être tellement déçu, d'avoir tellement honte, d'avoir cru en quelque chose qu'on a envie de disparaître. On a hâte de fuir. Cette démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est une conviction donnée par Dieu que des choses invisibles sont réelles. La Bible en français courant, dire avoir la foi ou mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu, de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est intéressant que nous vivons grâce à nos cinq sens. Le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'odorat. Sans ces cinq sens, nous ne pourrions pas communiquer avec le monde qui nous entoure, avec les personnes qui nous entourent. Mais ce qui est remarquable, c'est que quand on pense par exemple à la vue, et c'est un des sens qui nous impressionne, qui nous influence beaucoup si nous avons la chance de ne pas être non-voyants, d'être aveugles. C'est la façon dont on voit le monde de prime abord. Qu'est-ce que c'est que la vue ? Ce sont des ondes électromagnétiques qui parviennent, qui vous éclairent, qui vous touchent, qui viennent jusqu'à mon œil, et Dieu a créé, dans son expertise d'ingénieur créateur, un système qui me permet de détecter ces ondes et d'en faire sens. Et puis il y a le toucher, c'est remarquable lorsqu'ils sont en train d'essayer de créer des robots. Une des choses les plus délicates, les plus difficiles à faire, c'est de simuler le toucher. Nos mains sont d'une... La pulpe de nos doigts est d'une sensibilité fantastique. On peut sentir la moindre petite chose sous nos doigts. Et là aussi, ce sont des ondes par les nerfs qui vont jusqu'à notre cerveau qui en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons tellement l'habitude d'utiliser nos cinq sens que nous n'y prêtons pas tellement attention, et que ce qui va me faire saliver devant un bon repas, ça va être déjà la vue. Je vois cette paella dans la belle poêle noire là sur le feu, et déjà je salive. Des fois, j'ai déjà plutôt la faim qui grandit en moi. Puis après, quand je goûte, là aussi, c'est tellement bizarre. C'est mes papilles gustatives, les petites choses là, sur nos langues, qui transmettent en impulsion électrique des combinaisons chimiques de produits. La sauce de la paella avec le safran, les scientifiques peuvent dire exactement qu'est-ce que c'est comme composant. Ces composants, ma langue, mes papilles gustatives peuvent les faire remonter. Puis il y a l'odorat même de la paella, et on n'a pas l'habitude de se dire « Ah, ça sent bon, ça c'est le nez. Oh, ça a l'air bon !» Et tous nos sens en éveil sont en jeu. Et la foi, en fait, elle est très comparable à la... Elle est pour notre monde spirituel ce que la vue est pour notre vision avec le monde physique. Imaginez un superbe clair de lune sur la promenade des Anglais. Je vous emmène en vous demandant de garder les yeux fermés. Si vous gardez les yeux fermés toute la soirée, vous ne pourrez pas faire l'expérience de cette chose qui est pourtant réelle. La lune est réelle, que vous la voyez ou que vous ne la voyez pas. Ça va être bientôt la saison des lucioles. Souvent, on monte avec quelques-uns de l'église voir ce spectacle merveilleux de ces petits animaux qui scintillent dans l'obscurité vers 10 heures du soir sur les endroits un peu humides. Le canal de Guéraud est un bon endroit. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a les lucioles. Si on le savait, il y aurait des bus de touristes japonais qui viendraient envahir l'endroit. Si vous êtes, si vous voulez créer des business, c'est peut-être une idée. Les gens pensent souvent que c'est bien d'avoir la foi. C'est un peu quelque chose qu'on peut décider ou qu'on reçoit comme ça un peu par accident. Et ils nous disent, quand on parle de Dieu, ils disent « Oh, c'est réel parce que vous y croyez. » Non, ce n'est pas la foi qui cause l'existence des choses invisibles. La foi nous permet simplement de les appréhender, de les voir, de les recevoir. Dieu existe, qu'on le veuille ou non. Et la foi nous permet de le voir. J'aime bien ce chant qui dit « Dieu est présent parmi nous, si vous ne pouvez pas le voir avec les yeux, vous pouvez le voir avec les yeux, avec votre cœur. » Et ça, c'est souvent en parallèle dans la Bible. On a vu, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on ne voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est, on verra plus loin, par la foi Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, fit quelque chose. Hébreux 11.13 nous dira, c'est dans la foi, parlant des anciens qui sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Hébreux 11.27, c'est par la foi que Abraham quitta, que Joseph, que Abraham, que Moïse, bien sûr, quitta l'Égypte sans crainte de la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Et la foi, il nous explique qu'elle est supérieure à la vie. 2 Corinthiens 4, 18, ainsi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Le monde que nous voyons, le monde qui nous entoure, on sait qu'il va, être dissous à la fin des temps, qu'il va y avoir une nouvelle terre, Mais tout ce qu'on voit, les choses qu'on voit avec les yeux, c'est des choses momentanées. Par contre, les choses auxquelles on croit fermement, celles qui vont venir, qui nous ont été révélées par la parole, ce sont des choses qui sont éternelles. Si dans votre vie, vous ne vous fiez qu'aux choses visibles, ça va être un obstacle à votre foi. Le problème, c'est que quand on a un conflit entre la vue et entre la foi, notre vieille nature a tendance à favoriser la vue. Dieu veut que nous dépendions de lui, mais notre nature, elle déteste être dans cette situation où nous ne pouvons compter que sur lui. J'aime bien rappeler que la science moderne a retrouvé ses vérités, que les découvertes des particules atomiques et subatomiques nous montre en fait que ce que nous croyons être quelque chose de concret, de solide, qu'on voit parce qu'on reçoit des ondes électromagnétiques, en fait, c'est... J'aimais bien ce qu'un professeur de maths me disait. Il disait « La matière physique, c'est du vide qui tourne sur lui-même. » Et c'est vrai que quand on étudie un petit peu, même en profane, la composition de la matière, des atomes, des électrons, on s'aperçoit que l'électron tourne autour du noyau en laissant un vide qui est comparable à un stade de foot où un petit électron serait dans les tribunes et tournerait autour du ballon qui serait au centre du terrain de foot. Et on dit que si on arrivait à comprimer tout ce vide interparticule, un immeuble comme l'Empire State Building serait de la taille d'une cerise, d'un noyau de cerise. Mais ce serait un noyau de cerise qui pèserait des millions de tonnes. Il ne faudrait pas le laisser tomber sur le pied de quelqu'un. La science rejoint la Bible. La Bible est toujours validée par la science. Ne laissez pas les athées pseudo-scientifiques vous faire croire l'inverse. Et il ne s'agit pas, pour vivre, de nier la réalité physique. On ne va pas se dire, en fait, là, je prends du vide qui tourne vide. Ces frites, c'est en réalité que des ondes électromagnétiques avec des produits chimiques. Au fond des fonds, c'est ça. Mais on ne nous appelle pas à vivre de cette façon. Il faut comprendre la pratique, la réalité physique, mais reconnaître l'existence d'une réalité supérieure. Ainsi, vous vous souvenez des espions qui avaient été envoyés en terre promise, et il y en avait deux, Caleb et Josué, qui avaient vu les fortifications terribles des villes, le fait que les hommes étaient comme des géants en terre promise. Mais par la foi, ils ont vu Dieu et sa puissance infiniment supérieure. Et vraiment, la question, ce n'est pas est-ce que vous croyez en la matière ou en le spirituel, c'est qu'est-ce qui est le plus réel pour vous. Vous vous souvenez ce que Jésus-Christ avait dit à Thomas, qui doutait de sa résurrection, avant d'avoir pu voir avec ses yeux les clous sur les mains, et d'avoir pu mettre sa main dans son côté pour utiliser son sens du toucher. Et Jésus lui a répondu, il s'est laissé faire, il a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 29. Nous, nous avons l'avantage de ne pas avoir le choix. On ne voit pas Jésus-Christ vivant devant nous, en chair et en os, mais on le voit avec les yeux de notre cœur, et il nous dit qu'on est, béni pour ça. Il dit que, verset 2, c'est à cause d'elle, de cette foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Dieu a dit du bien de ses croyants, c'était donc les croyants de l'Ancien Testament, et c'était des personnages bien connus des Hébreux auxquels l'auteur de la lettre s'adressait. Il pouvait facilement s'identifier à eux, il connaissait bien la parole. Il va reprendre chacun de ces grands personnages pour montrer qu'en fait, ils n'ont fait qu'exercer cette foi en Dieu. Quand le mot « bon témoignage » ou « un témoignage favorable », c'est le même mot qui nous donne le mot « martyr ». Un martyr, c'est quelqu'un qui témoigne de façon ultime en donnant sa vie. Ces gens-là ont vu leur conduite, leur vie approuvée, sous-entendue par Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous avons tous, je crois, ou j'ai le sentiment, j'ai un besoin d'être approuvé. Besoin d'être approuvé par quelqu'un, de se sentir apprécié, accepté, élu par un grand nombre d'électeurs. On a tous plaisir à entendre des compliments. La question, c'est par qui est-ce qu'on veut être complimenté ? En général, on aimerait être complimenté par tout le monde. Le problème, bien sûr, c'est qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Ce qui va plaire à l'un va être ce qui déplaire à l'autre. Ce qui compte, bien sûr, c'est plaire à Dieu, pas aux hommes. Vous ne pourrez pas mettre tout le monde d'accord sur vos mérites. Et ce n'est pas là ce qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu approuve votre vie, votre foi, votre existence, qu'il la bénisse, qu'il l'utilise. Il est dit dans 1 Jean 5,9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, c'est-à-dire que l'on parle bien de nous, le témoignage de Dieu est plus grand. » Et même lorsque nous recherchons l'estime des hommes, c'est comme si nous faisions du tort à Dieu, nous sapons notre foi en lui. Dans Jean 5,44, il est dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Ça, c'est caractéristique des remises de prix, d'Oscar, de César. Les gens sont à se complimenter les uns les autres dans leur petit milieu fermé, même s'ils sont des centaines ou des milliers, mais sans chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Ça peut être notre vieille nature est pernicieuse, insidieuse. On peut même rechercher l'approbation des hommes en prétendant rechercher l'approbation de Dieu. On fait ça en se faisant passer pour plus spirituel qu'on est. Ah oui, ce matin, quand j'avais mon moment de prière avec Dieu, il devait être 5h30, j'ai eu ce sentiment, et on laisse tomber des choses pour que les gens pensent qu'on est très spirituel alors qu'on sait qu'on ne l'est pas. Ce qui compte, c'est de vouloir vous entendre dire un jour par Dieu, bien, bon et fidèle serviteur. Et tous les héros de la foi qui vont nous être présentés ne recherchaient pas à être bien vus par les hommes. Il dira au verset 36, « D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. » Est-ce que vous cherchez l'estime des hommes ou l'estime de Dieu ? D'abord, verset 3, « C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Comprendre, c'est percevoir mentalement, intellectuellement, c'est exercer nos facultés intellectuelles, notre intelligence, et ça c'est par opposition à nos cinq sens. Notre goût nous dit que cette glace à la vanille énorme est délicieuse, mais mon intelligence me dit que ce n'est peut-être pas bon pour ma santé d'en reprendre quatre ou cinq fois. On a aujourd'hui l'idée dans le monde qui nous entoure que pour le non-chrétien, il pense qu'il y a incompatibilité entre la foi et l'intelligence. Et que pour croire en Dieu, il faut être un peu attardé, manquer d'éducation, être rétrograde, être un peu simple, comme on dit. Ici, la parole de Dieu nous déclare que la foi aide notre intelligence. Par la foi, nous comprenons. C'est la foi qui nous aide à comprendre l'univers qui nous entoure. Ça, c'est quelque chose à dire à vos amis qui pensent qu'ils ne sont que des têtes bien pensantes et qu'ils rejettent toute notion de Dieu et de foi. La Bible nous dit que c'est l'insensé qui ne croit pas en Dieu, celui qui manque de sagesse. Le psaume 14 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Il faut être fou pour penser ça. Le monde, l'univers, c'est les âges, c'est-à-dire toute la création, a été formé, structuré, mis en branle, créé par la parole de Dieu. C'est pas le mot logos, c'est le mot rhéma, qui est la parole articulée par Dieu. Dieu dit et c'est créé. C'est un peu ce que la doctrine de la foi voudrait faire, c'est pouvoir dire et c'est créé. Une de leurs grandes écoles s'appelle Réma, justement, ce mot de parole articulée. La parole de Dieu, c'est ce qui a créé l'univers. Dieu a dit et ça a été créé. Et le monde visible, alors maintenant on sait qu'en fait c'est pas une illusion, mais ces atomes, s'ils tournaient moins vite, on verrait que c'est que du vide. Ces électrons et toutes ces particules, ce monde visible, il n'a pas été fait avec des choses visibles, mais par la parole de Dieu. Ce qui est vrai aussi, c'est que plus on cherche dans le monde des subparticules atomiques, et plus on s'aperçoit qu'il y a encore quelque chose à découvrir, qu'on a le vertige. On a le vertige devant l'infiniment grand et devant l'infiniment petit. Pour les littéraires, Pascal, l'auteur français du XVIe siècle, ou XVIIe siècle, disait déjà ça. l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et pour lui, c'était une raison de croire en Dieu. Et pour nous aussi, ça devrait être. Il n'y a que deux explications possibles pour expliquer l'origine de l'univers, disait un auteur chrétien. Soit la révélation, la création telle que la Bible nous la révèle dans la Genèse, dans les psaumes, comme le psaume 19, la révélation, et l'autre, c'est la spéculation. Les gens aujourd'hui parlent de science, qu'on peut expliquer l'origine du monde par la science. Mais ils ont oublié qu'en fait la science, par définition, ou une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est l'aboutissement de recherches qui doivent être, pour être validées, qui doivent être répétables. Si je laisse tomber mon crayon, je vous invite à le faire chez vous, il y a la gravité. La masse de la Terre attire la masse de ce petit crayon. Et ça, c'est de la science qu'on peut répéter. Donc c'est vraiment de la science. Par contre, en ce qui concerne la création, qui est par définition un événement unique, on peut faire des spéculations, et Dieu sait s'il y en a, qui rejettent Dieu, mais n'allez pas croire à ce qu'on vous dit relatif à la création comme étant scientifique, à l'origine de notre monde comme étant spécifique. Si ce n'est pas répétable, ce n'est pas de la science. Et donc ce n'est pas la foi et la science, c'est la révélation et la spéculation, les alternatives. Mettez ça dans votre logiciel pour parler avec vos amis, vos amis étudiants. La théorie de l'évolution, elle est intéressante, mais c'est d'abord une théorie et elle ne peut pas être prouvée scientifiquement. On ne peut pas refaire le monde. Et pour que ce soit scientifique, il faudrait pouvoir le refaire à volonté dans chaque laboratoire. Pour le non-croyant, ou même parmi les croyants, il y en a qui se disent « on nous a tellement bassinés avec la théorie de l'évolution » et c'était mon cas, que j'avais compris que c'était scientifique, c'était indéniable. Gardez-vous de cette attitude. Non, le non-croyant pense que la création, l'idée qu'un Dieu a créée, est dépassée, mais Paul en parlait déjà, il disait dans 2 Corinthiens 2,14 « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Pour le croyant, c'est l'évolution qui est ridicule. Croire que l'on ait pu passer du chaos à l'organisation de plus en plus grande jusqu'au point de se trouver avec un homme et tous les cinq sens dont on a parlé, l'intelligence et même les imperfections, croire qu'on a pu passer d'une soupe primordiale dont il parle. On ne sait pas pourquoi, mais au départ, il y avait des étangs avec des produits bizarres, des bulles, des trucs volcaniques, des trucs chimiques et puis petit à petit, il y a des molécules qui sont articulées ensemble. Et puis ça a donné des premières cellules. Et puis ces cellules, on dit, tiens, ça serait une bonne idée si on s'organisait sans qu'il y ait derrière ça une création de Dieu. Les théories scientifiques, je vous le garantis, elles changent très rapidement. La parole de Dieu, elle demeure. Et comme on le disait, il a fallu 19 siècles à la science pour rattraper ce que la Bible nous disait. Et la foi, juste pour faire un petit commentaire, on y reviendra sur le chapitre 6, le verset 6 du chapitre 11, quelques versets plus loin. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi, ce n'est pas du luxe. Si vous voulez être en relation avec Dieu, vous avez besoin de la foi pour le voir et même pour lui plaire. Donc on va continuer en listant par la suite certains de ces grands personnages qui étaient respectés par le peuple juif, qui sont respectés par les croyants pour leur vie et leur exemple de foi. Et on va voir tous les domaines dans lesquels cette foi s'est exercée. C'est la substance de ce grand chapitre de la foi. Et j'aimerais terminer par une autre définition qui dit, si je la retrouve, que la foi, c'est entendre Dieu parler et c'est lui répondre avec des attitudes qui montrent notre dépendance envers lui et des actions qui montrent notre obéissance à lui. Je répète, c'est entendre Dieu parler et lui répondre avec des attitudes qui montrent notre dépendance envers lui et des actes, des actions qui sont en obéissance à ce qu'il nous commande. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cet organe de vision spirituelle qu'est la foi, Seigneur, et qui tu veux donner à chacun, Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Seigneur, certains pensent que nous avons eu le privilège de recevoir la foi, qu'eux n'ont pas et que c'est tant pis, mais c'est comme ça et qu'ils ne cherchent pas plus avant. Seigneur, aide-nous à les encourager à lire ta parole, à se tourner vers toi. Lorsque l'on se tourne vers Christ, le voile est déchiré, le voile qui nous empêche de voir les choses spirituelles, ce voile qui nous empêche d'exercer la foi que tu veux que chaque homme exerce, Seigneur. Il est remarquable de constater que pour les enfants, exercer la foi en Dieu n'est pas difficile. C'est toute notre éducation, notre pseudo-science qui fait que nous sommes réticents, nous voulons surtout ne pas vouloir avoir à rendre des comptes à un Dieu qui nous aurait créés. Seigneur, donne-nous de pouvoir exercer cette foi. Qu'elle soit aussi une foi qui touche ceux qui nous entourent. On verra combien l'incrédulité est contagieuse, mais aussi combien la foi l'est, Seigneur. Tu nous appelles à être des gens qui incarnons, qui vivons une foi qui donne envie aux autres, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre. Merci pour Jésus-Christ qui s'est révélé à nous, qui est venu mourir pour nos péchés, qui a déchiré le voile, Seigneur, lorsque nous sommes tournés vers lui. Merci parce que la foi, c'est une chose réelle, Seigneur. Ce n'est pas juste un souhait, un peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Seigneur, fortifie notre foi. Comme le disait ce personnage du Nouveau Testament, qui voulait davantage de foi, nous voulons davantage de foi. Seigneur, augmente ma foi. Je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, ce matin, c'est notre prière. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.